Est-ce qu'en France aussi, on invente des faits? Eh ben, il n'y a pas besoin de chercher très très longtemps et de chercher très très loin dans le passé hein, pour retrouver ça. Moi, je bosse pas sur les sujets récents. J'attends toujours quelques années, comme je vous disais tout à l'heure. Mais si on prend par exemple l'opération Serval, vous vous rappelez cette opération? C'était au Mali là, c'était avant-hier quoi. C'était en janvier 2013 que ça a été lancé sous François Hollande. On nous disait qu'il y avait des mouvements massifs de djihadistes qu'on n'a jamais retrouvés, qu'il y avait des clichés fatidiques, on les a pas, des écoutes de chefs djihadistes qui n'ont jamais été transmises, avec un qui devait aller à la messe, enfin à la messe, suivre une, faire la prière à Mopti, par exemple, on n'a jamais vu. François Hollande s'est emparé de sujets notamment des femmes, du droit des femmes qui étaient bafoués par les méchants islamistes qui occupaient le Mali. Et ça, ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon. Dans le jargon des journalistes et dans le jargon des gens qui travaillent sur le journalisme, on appelle ça du storytelling, c'est-à-dire de la mise en récit. Ça, c'est le récit qui passe. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, les droits des femmes sont bafoués, c'est terrible, vite, intervenons au Mali. Bizarrement, s'ils étaient cohérents, ben, ils décideraient de faire ça dans tous les pays où les droits des femmes sont bafoués. Et bizarrement, c'est pas ce qui arrive. Alors, on se dit, mais quels sont les vrais enjeux, alors? Puisque si c'est une mise en récit qui détourne l'opinion publique des vrais enjeux, quels sont les vrais enjeux? Mais en fait, il suffit de lire, rien n'est caché, il suffit de regarder un petit peu les communications, ce que fait le président, comment il se comporte, qui il reçoit. Un peu avant le début de la guerre, vous pouvez retrouver la réception de François Hollande avec le président nigérien à l'Élysée, qui discute d'une intervention française et de la protection des exploitations françaises des mines d'uranium au Niger à la frontière avec le Mali. Là, vous avez déjà quelques indices, quoi. C'est-à-dire que c'est pas désintéressé. Le droit des femmes, c'est bien, mais c'est ce qui sert de vernis, si vous voulez. Ça nous donne envie d'y aller. Voilà. Ça nous donne une justification pour y aller, parce que de dire que c'est pour défendre les mines d'Areva, c'est un petit peu plus compliqué à vendre. N'empêche que tout ceci se faisant avec un certain nombre de morts et puis surtout avec un budget assez conséquent. Je vous ai mis ici le coût de l'opération Serval, 647 millions d'euros. On pourrait en faire des crèches et des inscriptions gratuites pour étudiants, des pour plein plein de trucs sociaux très sympas. Mais non, c'est dépensé là, sans compter que cette opération Serval a changé de nom, mais elle continue toujours là-bas. Elle s'appelle maintenant l'opération Barkhane. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le passé, 2 ans à peine derrière, plus sous Hollande, mais sous Sarkozy, vous vous rappelez peut-être de ce personnage qui est là-haut, Muammar Kadhafi, présenté comme le chien fou parfois. C'était l'opération Harmattan, une des nombreuses opérations militaires françaises. On croit que la France n'est pas en guerre, mais la France est en guerre, mais pas sur notre sol, quoi. Elle est en guerre à l'extérieur, quoi. Et donc l'opération Harmattan, le storytelling, si on regarde bien, c'était mettre fin à la guerre civile qui venait de démarrer en Libye. C'est une noble cause, je suis bien d'accord, hein. Il y a une guerre civile, il faut se poser la question, oh, c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais est-ce qu'une intervention militaire sur place, est-ce qu'elle se justifie? Comment? Et quoi? Mais en fait, on regarde un petit peu. L'intervention militaire fut, et là je vous donne les termes exacts employés l'année dernière par le Parlement britannique qui a fait un rapport sur le sujet. L'intervention militaire française fut fondée sur des postulats erronés. La menace d'un massacre de population civile a été surévaluée. La coalition n'a pas vérifié la menace réelle pour les civils. Ça n'a pas empêché d'y aller. Et les vrais enjeux, c'était quoi? Oh, je pense que vous savez, quoi. J'imagine que vous le savez. Et si vous le savez pas, ben, il faut prendre les sources. Ce qui est bien dans le monde médiatique, c'est qu'il y a des pressions entre les groupes. Et donc, les gens se tirent un peu la bourre. Et parfois, au point de frottement, comme ça, des choses sortent. La première source, c'est ce que je vous ai dit, le rapport britannique qui est sorti, qui nous dit, à un autre endroit, je vous explique, quand il y a marqué IBID, c'est-à-dire que c'est la même source qu'au-dessus. Hein. C'est ça que ça veut dire, IBID, quand vous voyez un IBID dans un ouvrage. Les véritables motivations de Sarkozy étaient de servir les intérêts français et d'améliorer sa situation politique en Afrique. Vous dites, bon, ah bon, mais c'est pas très clair quand même, pourquoi? Alors là, vous attendez un petit peu, et vous avez la fuite des emails de Hillary Clinton. Je sais pas si vous vous rappelez ça, cette affaire absolument incroyable, où elle se servait d'un serveur privé pour communiquer pour des raisons professionnelles. Et alors, il y a plein d'emails qui sont sortis avec des mémos qui étaient rendus par plein de structures différentes. Et alors, quand on creuse dans les mémos, on trouve des trucs très rigolos, hein. 5 facteurs motivant l'engagement de Nicolas Sarkozy en Libye: désir d'obtenir une plus grande partie du pétrole libyen, plus de guerre civile, hein. C'est plus ça la question. Accroître l'influence française en Afrique du Nord, améliorer la situation politique intérieure en France, enfin sa situation à lui, hein. Offrir à l'armée française une chance de rétablir sa position dans le monde, et plan à long terme de Kadhafi de supplanter la France comme puissance dominante. Il voulait notamment, Kadhafi, enlever le franc CFA, qui est effectivement une manière assez coloniale de mettre un joug sur l'économie en Afrique de l'Ouest notamment. Et donc ça commençait à poser pas mal de problèmes. Alors hop, une petite intervention comme ça. Et puis quand on regarde de très 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 près, là je vous ai mis Kadhafi une fois attrapé et fortement molesté. Dès le début de la guerre n'était même pas encore finie, hein, on est en avril là, hein, il y a déjà des vols dits humanitaires. Et qui sont les gens qui sont dans les vols humanitaires? Bah, des cadres de Total, de Vinci, de ADS. Et tout ça, c'est... Oui, c'est des petites brèves qu'on voit passer dans les journaux. On dit, ah tiens, EADS s'est rendu, machin. On ne fait pas le lien, on se dit, bon. Et il y avait Bernard-Henri Lévy. Alors Bernard-Henri Lévy, c'est quand même un... Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, mais c'est un philosophe absolument incroyable qui n'est enseigné nulle part. Je ne connais pas d'idée à lui en niveau philosophique, mais par contre, il a une espèce de tendance à intervenir dans des sphères qui ne sont pas les siennes et dans des compétences qui ne sont pas les siennes non plus. Et il a servi d'intermédiaire entre Sarkozy et les insurgés, et il aurait fait savoir aux responsables du comité de lutte de la guerre civile là, qu'ils avaient une dette envers la France au vu de son soutien précoce, et que Sarkozy avait besoin de quelque chose de tangible à présenter aux leaders politiques et économiques français. Vous voyez, en fait, il a fait le VRP, si vous voulez, pour l'industrie française, et Sarkozy aurait exhorté les Libyens à réserver 35% de leur industrie pétrolière à des entreprises françaises, en particulier Total. Vous voyez, donc la guerre, intervenir pour la paix civile, je ne connais pas, ma collègue Clara Egger qui bosse sur ça non plus, on ne connaît pas de cas d'intervention de type humanitaire qui soit faite pour des raisons humanitaires. On n'en connaît pas. On ne connaît que des interventions quand elles sont faites par un pays, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre. Il n'y en a aucune qui soit faite pour les raisons pour lesquelles elles sont présentées. Elles sont à chaque fois faites pour d'autres raisons, et notamment des accès à des ressources ou à des mers ou à des possessions. Quoi. C'est assez flippant. Donc, je vous encourage à regarder de près ce qui se passe en ce moment, aussi bien sur la Syrie que la Centrafrique, qu'un peu partout, quoi, partout là où on est. Je vois que beaucoup d'étudiants ont envie d'aller farfouiller les sujets états-uniens, mais en France, on a plein de sujets marrants, hein. Plein de sujets tragiques, avec plein d'armes aussi qui sont vendues à des pays bizarres. Et puis, il y a plein de sujets. En fait, c'est l'énergie qui manque parce que des recherches fouillées sur le sujet, il n'y en a pas tant que ça. Beaucoup de journalistes n'ont pas beaucoup le temps de travailler sur la question. On leur demande sans arrêt de produire rapidement des articles. Ils n'ont pas beaucoup le temps de faire de l'investigation. C'est un point que je retraiterai tout à l'heure. Voilà, ça, c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance des mensonges. Quand vous avez des mensonges sur le Yeti, bon, ça ne prête pas à conséquence. Quoi. Quand vous avez des mensonges sur, je sais pas, la foudre en boule ou un autre phénomène paranormal comme ça, il n'y a pas trop de conséquences. Si vous voulez. Là, quand on ment sur des faits précis qui permettent d'orchestrer des guerres qui amènent à des milliers de morts ou à des bombardements, comme c'est le cas en ce moment, je trouve que ça mérite réflexion et je voulais vraiment vous en parler.